France Culture.
Le journal est signé Adrien Toffolet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Des négociations directes entre Moscou et Kiev pourraient reprendre très prochainement, à en croire le Kremlin, après une rencontre de 3 heures cet après-midi entre l'émissaire de Donald Trump et Vladimir Poutine. Une rencontre qualifiée de constructive, alors que le président américain change de ton envers le président russe. Dans ce journal également, l'arrivée des chefs d'État à Rome, à la veille des obsèques du pape François, leurs différends profonds avec le souverain pontife mis de côté. En France, 2 jours de pratique obligatoire tous les mois dans les déserts médicaux, c'est non pour les médecins qui réagissent déjà au plan présenté par François Bayrou. La souffrance au travail des personnels de l'hôpital américain de Paris, révélée par la cellule investigation de Radio France. Et puis l'image satellite, preuve recevable par la justice dans les affaires de pollution maritime. Une décision historique salue les associations de défense de l'environnement. C'est au lendemain d'un étonnant « Vladimir, arrête !» lancé par Donald Trump à Vladimir Poutine que l'émissaire américain Steve Witkoff a été reçu cet après-midi par le maître du Kremlin à Moscou. 4e rencontre entre les deux hommes pour tenter de trouver un dénouement à la guerre en Ukraine. Mais cette fois donc, elle intervient après la colère du président américain envers son homologue russe suite au bombardement meurtrier sur Kiev en milieu de semaine. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Stanislas.
Correspondant de Radio France à Moscou, à l'issue de la réunion, côté russe, on parle de discussions constructives.
Oui, côté russe, on parle une nouvelle fois d'un entretien constructif, utile, sont les mots du conseiller présidentiel Yuri Ushakov, comme après chaque visite de Steve Witkoff. C'était la 4e ici à Moscou. C'est un habitué, en quelque sorte. Il a même eu droit à sa petite promenade à pied dans le quartier piéton de Stary Arbat avant de rejoindre le Kremlin. Steve Witkoff, qui a parlé pendant près de 3 heures avec Vladimir Poutine, et on ne sait pas grand-chose du contenu de la discussion, si ce n'est qu'à Moscou, on explique qu'il a été question de la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, ce qui serait évidemment un vrai premier pas. Il n'y a eu aucun contact officiel direct entre Russes et Ukrainiens depuis mars 2022 et les discussions d'Istanbul qui avaient échoué. Mais pour que ce dialogue direct puisse reprendre, il faudra évidemment pouvoir rapprocher les positions russes et ukrainiennes qui semblent encore très éloignées, pas seulement sur la Crimée et sur les territoires conquis, mais aussi sur l'après, la future armée ukrainienne, la présence éventuelle de troupes étrangères, la reprise du processus démocratique, les garanties de sécurité. Comme le disait Sergueï Lavrov sur CBS, il reste encore des points à peaufiner. Et c'est certainement un euphémisme.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Pendant ce temps, la guerre commerciale avec la Chine occupe également une large part de l'attention de l'administration américaine. Au Time Magazine, Donald Trump assure avoir été contacté par téléphone par Xi Jinping en personne au sujet des droits de douane, que des discussions sont en cours entre leurs deux pays avec l'espoir d'un accord qui pourrait être conclu dans les 3 à 4 prochaines semaines. Une partie du monde va en tout cas connaître un moment de pause, comme c'est souvent le cas quand un événement qui touche l'humanité se produit et impose la communion. Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Javier Milei, tout comme Emmanuel Macron, au total une 50aine de chefs d'État et de gouvernement et une 10aine de souverains seront à Rome dès ce soir avant les funérailles du pape François qui se dérouleront au Vatican demain. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir Adrien.
Vous êtes à Rome et ce défilé est un passage obligé.
Oui, dans les berlines noires qui filent sous escorte depuis ce matin de l'aéroport Léonard de Vinci au Vatican, pas de discours en préparation. Les grands de ce monde arrivent en silence, du prince William au roi d'Espagne. D'un instant à l'autre, Emmanuel et Brigitte Macron vont se recueillir devant la dépouille du pape à l'intérieur de la basilique. Et l'Élysée insiste, aucun rendez-vous diplomatique prévu en marge des obsèques, car c'est un temps de deuil. Rien de formel donc, mais sans doute des échanges spontanés, comme le désire Volodymyr Zelensky. Donald Trump est en ce moment en vol pour Rome, atterrissage prévu à 23h, et juste avant son départ, il s'est dit prêt à des échanges. Ce sera la première fois qu'il reverra le président ukrainien depuis leur altercation dans le bureau ovale. Le président brésilien Lula est arrivé à la mi-journée, son voisin argentin Javier Milei est en chemin, lui qui avait qualifié le pape de gauchiste néfaste a depuis changé de vocabulaire, tout comme Jordan Bardella, le président du RN, qui voyait dans ce pape un immigrationniste. Il vient de se recueillir au pied de son cercueil. Le premier ministre israélien, lui, ne change pas de ligne. Il vient seulement d'adresser ses condoléances aux catholiques et ne sera représenté ici demain que par son ambassadeur. Hostilité affichée ou silence poli, donc, la liste vient d'être publiée. 12 têtes couronnées, 53 chefs d'État, 15 chefs de gouvernement attendus. Ils étaient aussi nombreux pour saluer Jean-Paul II il y a 20 ans.
Maxence Lambrec avec Hélène Langlois aux moyens techniques. Au Proche-Orient, le gouvernement israélien continue de faire pression sur le Hamas afin d'obtenir la libération des otages du 7 octobre retenus dans la bande de Gaza. Les livraisons d'aide humanitaire sont toujours bloquées par Israël depuis le 2 mars avec les conséquences dramatiques que l'on connaît pour les populations civiles affamées qui vivent sous les bombardements. Conséquence, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial de l'ONU, annonce avoir donné ses derniers stocks alimentaires aux cuisines solidaires qui, de fait, serviront dans les prochains jours leur dernier repas chaud dans l'enclave palestinienne. C'est avec l'expression solidarité médicale que François Bayrou a présenté aujourd'hui son pacte de lutte contre les déserts médicaux. Cheval de bataille de l'exécutif qui n'a pas manqué de provoquer la colère des jeunes médecins qui redoutent qu'une régulation du lieu de leur installation sur le territoire ne leur soit imposée. Parmi les différentes mesures présentées tout à l'heure, le Premier ministre propose que tous les médecins fassent jusqu'à 2 jours par mois de consultation dans des zones tendues. Près de 30 millions de consultations par an seraient ainsi réorientées là où les besoins sont identifiés, selon l'exécutif. Une contrainte d'ores et déjà rejetée par les médecins et qui ne réglera pas le problème de fond, selon Agnès Gianotti, présidente du syndicat des médecins généralistes MG France.
On n'est pas assez nombreux, donc vous pouvez tourner ça dans tous les sens. On restera pas assez nombreux. Vous avez 87% du territoire qui est en zone sous-dense. Donc, de toute façon, nous avons 5 ans difficiles. Donc, pendant ces 5 ans difficiles, il faut assurer les soins à ceux qui en ont le plus besoin. L'idée de base, elle est bonne. Elle est incomplète parce que il faut un cabinet médical, bien évidemment, pour recevoir les gens. Il faut un logiciel médical. Il faut un personnel d'accueil, surtout, qui assure une continuité. Les gens ont besoin d'être soignés, donc se mobiliser pour les soigner. Nous partageons l'objectif et nous partageons même les idées. D'ailleurs, il y a dans les propositions certaines mesures dont nous étions demandeurs. Le fait d'avoir l'autorisation d'être remplacé quand on va dans un cabinet secondaire, parce que du coup, il n'y a plus personne à notre place dans le cabinet. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas cette autorisation. Ça fait partie des propositions et c'est utile. Ce qui ne va pas, c'est surtout la contrainte. C'est-à-dire, on va obliger les médecins, mais il y a des médecins qui ne peuvent pas. Il faut arrêter de raisonner en termes de contraintes, comme si on était des enfants ou des irresponsables. J'ai énormément de collègues qui portent des projets de ce type-là. Et c'est pour ça qu'on a proposé des choses de ce genre dans les territoires, parce qu'ils sont préoccupés par l'accès aux soins. On n'a pas besoin d'être menacé du bâton pour faire des choses.
Agnès Gianotti, interrogée par Laura Dulieu. C'est un établissement de santé français dont on entend souvent le nom lorsque des célébrités, artistes, chefs d'État, grandes fortunes y sont soignés. Le dossier de ce journal est consacré à l'hôpital américain de Paris, établissement à part dont le fonctionnement est aujourd'hui critiqué en raison d'une souffrance au travail vécue par des personnels. Stéphane Père, bonsoir.
Bonsoir.
De la cellule d'investigation de Radio France, vous nous apprenez même ce soir qu'un juge d'instruction enquête sur le suicide d'un médecin de cet hôpital.
Oui, Emmanuel Marais a mis fin à ses jours en février 2020, juste après sa garde. On l'a retrouvé dans sa voiture, où s'étaient injectés des produits provenant de la pharmacie de l'hôpital américain. Voilà ce que nous disait sa veuve quelques mois après la mort de son mari. Nous avons fait lire ses propos.
Dans l'une de nos dernières conversations, il me disait: je n'en peux plus de toute cette pression, je veux quitter cet hôpital, j'en ai ras-le-bol. Depuis des mois, il m'exprimait toutes ses difficultés professionnelles. Il ne trouvait pas de soutien. Je veux savoir. Je ne veux pas que ça se reproduise. Comment un système peut broyer un homme aussi solide ?
À l'époque, cette femme saisit la justice, mais la plainte est classée sans suite. Le parquet de Nanterre estime que les éléments sont insuffisants pour caractériser le harcèlement professionnel. Une décision incompréhensible, estime Benjamin Bobot, c'est l'avocat de la veuve du médecin.
Vous avez 16 personnes qui ont été entendues au cours de cette enquête. Parmi ces 16 personnes, 13 dénoncent des conditions de travail absolument inacceptables, une pression intolérable qui pesait sur les épaules des médecins pour des objectifs de rentabilité. On parle d'un véritable champ de mine dans le service, etc. Le dossier dont dispose la justice actuellement est d'ores et déjà accablant.
Stéphane, la direction de l'établissement avait-elle connaissance de situations de souffrance au travail ?
Nous avons appris qu'un mois et demi avant le drame, une alerte avait été envoyée à la direction de l'hôpital américain par le représentant des médecins de l'établissement. Un mail, nous nous avons fait lire un extrait et qui avertissait du comportement du supérieur d'Emmanuel Marais.
Moi, j'ai des gros doutes sur ce leadership agressif qui n'embarque pas le groupe, qui sert des intérêts de plus en plus personnels. Mon devoir est de vous alerter bien en amont. Faites votre enquête et ne négligez pas le capital humain. Interrogez tous les anesthésistes, même les plus discrets. Je serai très vigilant, car il y aura de nouveaux rebondissements.
Notre enquête nous a aussi permis de découvrir l'existence d'un rapport sur les risques psychosociaux dans cet hôpital privé. Une étude qui date d'avant la mort de l'anesthésiste et dont voici un extrait.
Le sentiment de fatigue psychique et de stress est palpable pour l'ensemble des services. Le management semble être vécu par les salariés de certains services comme descendant, autoritaire, voire parfois menaçant. Au regard des constats de fatigue et d'usure exprimés par les salariés, il est impératif d'approfondir la politique de prévention des risques professionnels.
Et pour que ce rapport ne voie pas le jour, l'hôpital américain est allé jusqu'à saisir la Cour de cassation. C'est rarissime dans ce type de dossier.
Alors que répondent les responsables de l'hôpital à tout cela, Stéphane ?
Contactés par la cellule investigation de Radio France, les responsables de l'hôpital soulignent que l'anesthésiste ne s'est pas suicidé sur son lieu de travail, qu'il n'était pas salarié et qu'une enquête interne, déclenchée plus d'un mois après sa mort, a conclu à l'absence claire de lien entre le suicide du médecin et l'hôpital. C'est vrai, mais 5 mois après avoir rendu ce rapport, le président de cette même commission, un professeur respecté de l'assistance publique, a été nommé directeur des affaires médicales de l'hôpital américain. Nous avons contacté ce professeur. Selon lui, il n'y a aucun conflit d'intérêt dans cette nomination.
Merci Stéphane Père. Votre enquête est à retrouver sur le site de Radio France. Comment briser la spirale des violences physiques et sexuelles dans les établissements scolaires? Après le scandale de Betarame, à ce sujet, l'Éducation nationale prépare des questionnaires à l'intention des élèves du CP à la terminale, interne et de retour de voyage scolaire pour dénoncer des comportements problématiques. Pour recueillir la parole, le gouvernement compte sur les médecins scolaires et les assistantes sociales. Les questionnaires ont été rédigés avec la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, mais sans les syndicats, Estelle Caméraire.
Et ce, malgré leurs demandes, explique Olivier Beaufrère, secrétaire national SNPD-NUNSA.
Le questionnaire tel qu'il a été construit, sans groupe de travail, sans réflexion préliminaire à laquelle nous aurions pu être associés, nous semble bien sûr complètement anormal.
Même constat de la part du SNES-FSU.
On a été complètement écartés de cette élaboration.
Sophie Venetite, secrétaire générale du syndicat du secondaire.
Sur la question là, du recueil de la parole des élèves, il me semble qu'il faut revoir toute la démarche du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, la réalité dans un collège ou dans un lycée, c'est que la psychologue de l'éducation nationale ou l'assistante sociale, elle est là un jour dans la semaine, parce que les autres jours dans la semaine, elle est dans d'autres établissements. Il y a quand même un risque que l'élève ne trouve pas le bon adulte au bon moment. On parle quand même de situations de violence commises sur des élèves, donc parler, c'est quand même revivre une forme de traumatisme. Et au moment où l'élève va essayer de surmonter son traumatisme pour parler, s'il trouve la porte de l'infirmerie close, on aura loupé quelque chose.
Sophie Venetti soulève également la question de l'anonymat. Le ministère propose de réunir toute la classe s'il y a mention de violence dans les questionnaires.
Ça peut vouloir dire aussi que des élèves vont craindre d'être stigmatisés comme étant celui ou celle qui a parlé, donc peut-être qu'ils vont s'auto-censurer. Enfin, c'est vraiment ne pas connaître la psychologie des élèves, la psychologie des victimes aussi, que d'envisager une telle démarche.
Le SNES-FSU demande à ce que les questionnaires ne soient pas anonymes pour mieux prendre en charge les victimes. Le ministère, quant à lui, va lancer sa phase d'expérimentation jusqu'en juin et généraliser les questionnaires en septembre prochain.
Estelle Caméraire, l'État n'a pas encore fait part de sa décision de faire appel ou non de la décision du tribunal administratif de Lille qui avait rétabli mercredi le contrat d'association du lycée musulman Averroès. Décision qui avait provoqué la colère à droite et à l'extrême droite du paysage politique qui accuse l'établissement d'entrisme islamiste. L'extrême droite qui s'en prend également à un documentaire qui porte sur le lycée intitulé Averroès au-delà des préjugés, diffusé dans plusieurs cinémas. Une projection est notamment prévue ce soir à Denain, mais plusieurs élus du Rassemblement National s'y opposent. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Adrien.
La production du documentaire a fait face à de multiples annulations et dénonce des pressions politiques.
Le réalisateur Hicham Salem commence son projet en 2023, quelques semaines avant la résiliation du contrat d'Averroès avec l'État, et l'établissement est alors déjà au centre de l'attention médiatique.
Je me suis dit pourquoi pas faire un film, mais de manière totalement objective, c'est-à-dire qu'on prendrait vraiment tous les acteurs qui ont contribué à la création du lycée et puis raconter simplement l'histoire.
Un an et demi plus tard, son documentaire est prêt. 1h30 d'interview montée sans voix off. Il cherche à le diffuser dans sa région, d'abord à Roubaix et puis à Denain, où il signe un devis avec Megarama. Mais début avril, le cinéma se désengage soudainement. Motif invoqué devant le juge des référés, saisi par la société de production, un risque de trouble à l'ordre public. Le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui s'était indigné de cette projection, se félicite alors sur X de cette décision, rejoint par le sénateur RN du Nord, Joshua Auchard.
On pense disons, que diffuser des images d'un lycée qui fait la promotion de l'islam radical peut créer un trouble à l'ordre public.
Et ce documentaire, vous avez pu le voir ?
Non, on n'a pas pu le voir, mais en tout cas, on n'a pas pu le voir. Non.
Trois cinémas CGR annulent à leur tour leur projection à Tours, à Épinay-sur-Seine et près de Lyon. Contacté, le groupe n'a pas répondu à nos sollicitations. En revanche, à Denain, le juge des référés a finalement donné raison à la société de production, contraignant Megarama à maintenir la projection. Hicham Salem, le réalisateur.
Moi, c'est juste de l'incompréhension, en fait. Nous, on estime que, en tant que réalisateur, que le cinéma sont des partenaires et non des adversaires. Et le fait que le politique s'en mêle et que ça fasse des pressions, on est un peu déçus, surpris et déçus.
La préfecture de police se dit quant à elle ce soir mobilisée pour garantir l'ordre public autour de cette diffusion.
Jeanne Serrin, c'est une décision de justice importante en matière de lutte contre la pollution maritime. La cour d'appel de Rouen vient de condamner aujourd'hui l'armateur et le capitaine du MT Guardians, un navire battant pavillon panaméen. Ils ont procédé en 2021 à un dégazage au large du Havre, une nappe d'eau usée, d'huile végétale immortalisée par images satellites. Or, jusqu'ici, en France, les moyens de preuve acceptés par la justice ont toujours été le flagrant délit par la gendarmerie maritime et le cliché photo pris sur place, d'où la relaxe en première instance. Pour Christina Barrault, juriste à la Surfrider Foundation, l'une des deux associations à avoir saisi la justice, la prise en compte des images satellites par la cour d'appel est une première.
C'est une victoire un peu historique, j'ai envie de dire, qui devrait faire jurisprudence, puisque c'est la première fois en France où des poursuites ont été engagées sur la base d'images satellites et où on reconnaît du coup la culpabilité du capitaine et de l'armateur pour rejet de substances polluantes sur la base d'une preuve qui est des images satellites. Ça n'était pas encore arrivé en tout cas en France, ça était déjà arrivé par exemple au Royaume-Uni et aussi en Espagne, mais en France c'est la première fois.
Qu'est-ce qui a fait la différence ?
Un bon travail de la justice, j'ai envie de dire, et certainement des ONG. Il faut savoir que l'arrêt en première instance devant le tribunal judiciaire n'avait pas reconnu la culpabilité de l'armateur et du capitaine. C'est-à-dire que c'était difficile pour eux d'établir si la nappe était bien reliée au navire, la nappe polluante. Et du coup, en fait, l'avocat général a demandé ce qu'on appelle une expertise avant dire droit. Et il est apparu que le seul navire qui avait une trajectoire compatible avec la nappe et dont la dérive correspondait, c'était bien le Guardians. Donc on espère vraiment que ça va aussi motiver d'autres procureurs à poursuivre plus facilement, à se dire, ben voilà, il y a déjà un précédent, donc on va pouvoir y aller et on va pouvoir faire reconnaître la culpabilité de ces armateurs et surtout capitaines, qui pensait polluer impunément en tout cas.
Christina Barrault, interrogée par Mathieu Laurent. Des bouleversements à venir à Radio France. La direction vient d'annoncer que la radio Move allait disparaître d'ici à 2025 de la bande FM. Du côté de Ici, anciennement France Bleu, l'antenne Ici Paris-Île-de-France devrait être fusionnée avec l'antenne nationale. Bonsoir Pierre Repère.
Bonsoir.
C'est au terme des deux comités socio-économiques, hier et aujourd'hui, que les syndicats ont appris la nature de ces changements.
Oui, ces CSE se sont déroulés dans une ambiance tendue en ce qui concerne Move. La rumeur courait depuis plus d'une semaine. Aujourd'hui, la direction a confirmé sa volonté de transformer la chaîne en radio de flux musical. Écoutez Bertrand Durand, élu CGT et délégué du CSE central.
On savait qu'il y allait avoir un nouveau projet pour Move, mais en fait, on a découvert que c'est carrément une amputation. Vous avez une plaie au coude, on vous coupe le bras. On est clairement en phase d'un renoncement à une ambition de radio de service public pour la jeunesse. C'est-à-dire que Move, de fait, n'existerait plus en tant que radio. Les émetteurs FM seraient supprimés dès 2025, dans le but, selon la direction, de redéployer ses moyens vers toutes les autres radios de service public pour attirer les plus jeunes vers ces stations. C'est un pari extrêmement risqué.
Les syndicats s'inquiètent également du devenir des salariés. Si les CDI devraient être transférés vers d'autres postes, les 32 pigistes et contrats à durée déterminée, eux, ne seront pas renouvelés à l'issue de l'été. Du côté de Ici Paris Île-de-France, lors du CSE qui se tenait hier cette fois, le projet de la direction de fusionner les équipes parisiennes avec les équipes nationales n'a pas non plus fait l'unanimité. Pour le journaliste Tanguy Bocconi, élu CGT au CSE Bleu, l'Île-de-France ne bénéficiera plus d'une couverture complète.
la couverture éditoriale de l'Île-de-France va très sévèrement en pâtir, quasiment réduite à la portion congrue, voire inexistante en fait. Les deux rédactions fusionnant, au passage, perdent des postes. Parce que parmi ces redéploiements, le service reportage est totalement sabré. Et pour le reste, en fait, ils ont profité pour renforcer les équipes numériques.
Là aussi, les syndicats s'inquiètent du sort et de la santé des salariés.
Pierre Repère, le temps de demain, du soleil sur le quart nord-est, un ciel gris partout ailleurs avec de la pluie sur une large partie du sud-ouest. Les températures restent douces de 13 à 18 le matin jusqu'à 20 l'après-midi.